envie de vous dire bon réveil à tous. Le journal Margot Delpierre, bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Joe Biden et Donald Trump s'apprêtent à rejouer le scénario de 2020. Les deux hommes ont obtenu dès hier assez de délégués pour s'assurer l'investiture de leur parti. Explication de notre correspondant aux États-Unis.
Nous reviendrons sur le débat hier à l'Assemblée nationale à propos de l'aide française à l'Ukraine, stratégie largement soutenue avec 372 voix pour. Mais la France insoumise, entre autres, s'y est opposée.
Le film événement de 2023 en Italie sort aujourd'hui dans les cinémas français. Son titre, Il reste encore demain, l'histoire d'une femme qui essaie d'échapper à son mari violent. Il y avait peu d'incertitudes, mais le match est désormais plié aux États-Unis. Le président sortant Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump disposent des délégués nécessaires pour obtenir l'investiture à l'élection présidentielle. Une semaine après le Super Tuesday, quatre États étaient hier en jeu dans les primaires de chacun des deux partis, démocrates et républicains. Les regards se tournent à présent vers le 5 novembre à New York, Loïc Loury.
1215 délégués nécessaires pour Donald Trump, 1968 du côté de Joe Biden, dans un cas comme dans l'autre. Ces seuils critiques ont été franchis hier. Trois mois avant la fin des primaires, les deux candidats ont écrasé la course à l'investiture en attendant les conventions de leur parti cet été et peuvent désormais se concentrer sur leur duel du 5 novembre, une revanche que ne souhaitaient pas près des deux tiers des Américains. Chez les Républicains, Donald Trump s'impose malgré les casseroles judiciaires. Ou sa défaite de 2020, Joe Biden, lui, paye l'inflation, son grand âge et son soutien à Israël. Autant dire que tous les deux atteignent des sommets d'impopularité et qu'il faudra convaincre les électeurs les plus mécontents d'aller voter. Ce sera la première fois depuis les années 50 que l'Amérique aura droit à une revanche pour la présidentielle, mais les électeurs ne sont pas bien nombreux à s'en réjouir.
Leonid Volkov, un opposant russe proche d'Alexei Navalny, a été agressé et hospitalisé hier. Cela s'est produit près de chez lui à Vilnius, où il vit en exil. Une attaque choquante, a réagi le gouvernement lituanien. Mais nous n'abandonnerons pas, prévient l'opposant, qui a pu regagner son domicile et compte bien continuer à lutter pour la démocratie. Selon lui, cette agression est typique du mode opératoire des hommes de main du président russe Vladimir Poutine. Moscou qui, depuis deux ans, a envahi l'Ukraine et tandis que la guerre dure, les députés français s'exprimaient hier sur la stratégie de Paris pour aider Kiev. Stratégie matérialisée par l'accord de sécurité signé entre la France et l'Ukraine il y a un mois et largement soutenu hier soir par l'Assemblée nationale avec 372 voix pour et 99 contre. Les députés insoumis et communistes s'y sont opposés. Le RN s'est abstenu. Pour défendre la position de la France insoumise, le député du Val-d'Oise, Arnaud Le Gall, s'est exprimé à la tribune. Écoutez.
Je l'ai dit, ce débat est un simulacre. Le texte de l'accord lui-même n'a plus de sens depuis que le président de la République a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il nous a alors fait passer dans une autre dimension. Ce n'est pas un hasard si vous avez annoncé ce débat non pas après la signature de l'accord, mais bien après les propos du président de la République le 26 février. Oui ou non, acceptons-nous que la France, puissance nucléaire, se place en situation de guerre face à la Russie, puissance nucléaire? Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. La déclaration irresponsable du président de la République a ouvert la voie à une escalade que nous ne pouvons cautionner. Comment croire qu'il a créé une ambiguïté stratégique? Au contraire, la succession humiliante de communiqués des principaux alliés de la France, se désolidarisant de cette déclaration, a amené tout le monde à afficher ses limites. Poutine n'en demandait pas tant. L'ambiguïté stratégique est incompatible avec l'agitation verbale.
Le député LFI Arnaud Le Gall autour du Sénat de débattre aujourd'hui de l'aide à l'Ukraine.
6h34 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le Sénat qui entendait hier la ministre de la Culture.
Oui, Rachida Dati veut une gouvernance unique pour l'audiovisuel public d'ici la fin de l'année. Reçue par la commission Culture et Communication, elle a défendu le principe d'une holding qui regrouperait les différentes sociétés de l'audiovisuel public, à commencer par France Télévisions et Radio France, dont France Culture fait partie. Un projet qui n'est pas nouveau et qui inquiète les syndicats. Ils redoutent une perte d'autonomie pour les différentes entités. Bertrand Durand est le délégué syndical central de la CGT Radio France.
Pour nous, le fait de créer une holding, dans un premier temps, de toute façon, ne va produire aucune économie. Au contraire, et surtout, nous nous inquiétons pour la pérennité de la radio de service public et de ses missions. L'entreprise publique unique Radio France a certainement plus besoin de moyens pour assurer ses missions et ses activités que d'une gouvernance au prétexte qu'il faudrait rassembler des forces. On sait très bien ce qui s'est passé en Angleterre avec la BBC. Et la BBC a particulièrement pâti en termes de moyens, quels qu'ils soient, au moment du redimensionnement de ses activités.
Et selon vous, la radio serait la première sacrifiée avec cette gouvernance unique pour l'audiovisuel public ?
C'est à craindre parce que nous avons un fonctionnement particulier à Radio France. France Télévisions elle-même est une holding, mais Radio France est une entreprise unique avec des modes de production en interne auxquels on tient beaucoup et qui sont en lien avec la qualité des programmes diffusés. On tient beaucoup aussi à nos rédactions et à leurs services. Il est à craindre que la radio pâtisse particulièrement de la création de cette holding qui sera constituée de filiales. Et on peut imaginer un dépeçage de Radio France pour alimenter ces différentes filiales de la holding qui pourrait s'appeler France Média, comme il était précisé dans le rapport de Franck Riester en 2019.
Bertrand Durand de la CGT Radio France, il répondait à Stanislas Vazak. Le public français peut découvrir à partir d'aujourd'hui au cinéma un film italien devenu un phénomène dans le pays l'an dernier. Il reste encore demain, réalisé par Paola Cortellesi, a rassemblé plus de 5 millions de spectateurs en Italie. Il raconte, avec pour décor Rome, juste après la Seconde Guerre mondiale, l'histoire d'une femme qui tente de se libérer d'un mari violent. Un film choc, d'autant qu'il est sorti en salle chez nos voisins au moment où l'actualité était très marquée par un féminicide médiatisé. Bruno Duvic a réuni trois femmes de générations différentes pour en parler.
Luciana avait 15 ans au sortir de la guerre.
Le film m'a plu parce qu'il raconte la réalité.
À 93 ans, elle se souvient de ses familles de frères et de maris violents. Comme celui de Delia, l'héroïne du film qui a tant ému Isabelle, 50 ans, et des millions de spectateurs en salle.
Tout le monde sortait avec son mouchoir et se tamponnait les yeux.
C'était le cas de sa fille Charlotte, franco-italienne de 26 ans. Elle a aussi vu l'onde de choc autour d'elle.
Je parle de grand-mère, de voisine, qui nous disent « je me suis reconnue dans ce film ».
Mais sortir du silence n'est pas chose facile en Italie, selon Isabelle, qui habite depuis plus de 30 ans.
Là, on va toucher à l'intime, à quelque chose qui relève de la sphère privée. Et donc, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de mal à faire sortir ça du placard, ici.
Le film raconte aussi le jour où les femmes ont voté pour la première fois en Italie. 2 juin 46, autre forme d'émancipation. Luciana se souvient.
La veille, ma mère a pleuré toute la nuit, pleuré de joie à l'idée d'aller voter.
Environ 80 ans après, la question du féminisme a infusé dans la société pour Charlotte.
Il y a aussi beaucoup plus d'hommes qui se remettent en question. Je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus collectif en un sens.
Et ceux qui iront voir le film constateront que le rouge à lèvres est éminemment politique.
Il reste encore demain, c'est aujourd'hui dans les cinémas français. Météo France prévoit un temps plus calme et ensoleillé sur le sud et l'est du pays. Ailleurs, le ciel sera gris. Aujourd'hui, vigilance orange aux crues maintenues en Charente-Maritime et en Gironde. 12 degrés attendus cet après-midi à Belfort, 15 à Rennes et Paris, 18 à Montélimar et Toulouse, 20 degrés à Montpellier.